L'homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit, l'homme, deux mots rapprochés sans effort. Mais entre les deux êtres, quelle distance! L'Esprit du Dieu trois fois saint, devant lequel, prosterné et la face voilée, les anges répètent incessamment « Saint, Saint, Saint est l'Éternel » et l'homme, l'homme déchu, tel que la Bible nous le dépeint et l'expérience nous le révèle. Dans le fond, toujours le même, que ce soit l'homme de l'état de nature, sur une terre remplie d'extorsions, ou celui de la loi, qui n'en était pas moins rusé et corrompu, ou celui de l'année favorable, que Jésus devait appeler mauvais et comparer à un loup et à un mort, ou l'homme peint en pied par Paul dans les Épîtres aux Romains, aux Éphésiens et à Tite, l'homme digne d'être haï jusqu'à l'homme moderne, dont Joseph le Maître disait, paraît-il, « Je ne sais ce que peut être le cœur d'un coquin, mais quant à celui d'un honnête homme, c'est horrible. » Oui, l'homme de la chute, qui passe si vite de l'acte à l'habitude, de celle-ci à la seconde nature, c'est-à-dire à la loi du péché et de la mort, grâce à l'inextricable enchaînement des causes et des effets, ceux-ci devenus causes à leur tour, entre le corps et l'âme, entre l'individu et la race, entre le péché et les péchés, cet homme-là, en faire le temple du Saint-Esprit. Y a-t-il, si ce miracle s'opère, miracle si grand qui puisse lui être comparé? Le plus grand miracle que je connaisse, c'est celui de ma conversion à diviner qui était bon juge. Et ce miracle s'est accompli, et je dois maintenant essayer de le décrire. Mais par où commencer? Par où la description? Et par où, pour l'Esprit de Dieu, l'opération elle-même? Pour qui connaît l'homme et qui le connaît comme Dieu, il y a pourtant un point qui, gagné, peut entraîner le reste. Dans l'alarme batavique, il y a un point sensible, la fine extrémité, qu'un enfant la brise dans sa petite main, il n'y aura plus que poussière. De même, peut-être pour l'homme, un acte l'a perdu. Un acte inverse ne pourrait-il pas devenir le principe de son salut? C'est à essayer de provoquer cet acte libre de retournement que le Saint-Esprit va travailler dans la phase préparatoire de son œuvre, celle dite de la grâce prévenante qu'il accomplit sur l'homme, mais du dehors. De quoi s'agit-il? L'esprit de l'homme, le pneuma, est atrophié. Il faut le vivifier assez par une action stimulante, astringente, dirais-je presque, pour que la conscience puisse parler, le cœur s'émouvoir, et tous deux réunis, imprimer à la volonté une impulsion qui arrachera l'homme à lui-même et le livrera librement à Dieu. Bienfaits, épreuves, délivrances attendues ou inopinées, accidents, humiliations et catastrophes, succès, revers, détresse, un mot d'ami ou d'inconnu, fût-ce parfois un mot plaisant, mais transformé en flèche aiguë de Dieu, prédication, livre, rêve, une poignée de main, la vue d'une larme, tout est bon à l'esprit, tout est utilisé selon la connaissance de chaque cas spécial, pour secouer l'homme endormi, l'homme somnambule ou fasciné, et le forcer à rentrer en lui-même. Et tout est bon au monde et à Satan, pour retenir ou essayer de ressaisir l'âme qui lui échappe. Conseils perfides, flatteries, menaces, lazis, dissipations et distractions de tout genre, il emploie tout. De là des batailles indescriptibles dont l'âme est tout ensemble le théâtre et l'enjeu. Batailles et contradictions entre le rire forcé et de secrètes mélancolies, les tentations de se donner et celles de se dérober, des redoublements insensés, des frénésies de mondanité et des velléités de prise de voile ou de vie trappiste, jusqu'à ce qu'enfin, acculé dans un nouveau cercle de Popilius, l'homme doive répondre à cette question directe. « Me veux-tu, oui ou non ?» Qui dira la solennité de tel moment? Car si je crois à la grâce prévenante, à l'initiative divine qui imprime à tout le salut le caractère de parfaite gratuité, je ne crois pas à la grâce irrésistible. Sur ce point, je me sépare de Calvin. Comme les pharisiens, tout homme peut rendre inutile le conseil de Dieu, Évangile de Luc, chapitre 7, verset 30, à son égard. « Ils ne voulurent pas venir. » Je me tiens à la porte et je frappe, mais je ne l'enfonce pas. Il t'est dur, non impossible, de résister aux aiguillons. Je ne résistais pas à la vision céleste. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Même dans les cas où la grâce prévenante subjugue l'homme, comme à Damas, je crois que l'épreuve de la liberté suit. Si donc l'homme s'oppose, toujours s'oppose aux appels directs de Dieu, l'endurcissement commence, la conscience se fausse, l'âme devient incapable de repentance vivante et la voie de l'une des formes du péché contre le Saint-Esprit va peut-être s'ouvrir. Que s'il cède, au contraire, si l'homme s'ouvre tant soit peu, alors commencera cette œuvre aussi redoutable que nécessaire, dans laquelle le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ceux-là seuls qui ont traversé de telles crises savent jusqu'où peut être portée parfois les angoisses de l'âme. Ils se rappelleront les impitoyables investigations du Saint-Esprit dans les antres ignorés de la vie et, à la suite de ces fouilles, les dépositions des commandements qui, l'un après l'autre, viennent à la barre de Dieu figurés comme témoins à charge, et les impuissantes tentatives de justification personnelle, et ce sentiment accablant de condamnation sans espoir, et l'abîme béant qui va vous engloutir, et ce moment poignant où l'on peut croire aux promesses pour tous les autres, mais pas encore pour soi-même. Et enfin, peut-être avec des semaines d'un Gethsémané spirituel, cette timide réflexion, pourtant, si Christ était mort aussi pour toi. Et après cette réflexion, un regard furtif porté sur la croix, enfin le cri « Oui, je veux croire, oui, je puis croire » qui marque l'instant précis de la conversion de l'âme et du commencement de la foi. Je ne veux pourtant pas laisser croire qu'à mes yeux, toutes les conversions doivent avoir ces caractères dramatiques. Ceci dépend de beaucoup du tempérament, de l'époque, des circonstances personnelles et de la race. Je ne suis pas méthodiste, quoique j'aime beaucoup mes frères méthodistes. Je ne crois pas à un programme officiel, tant au point de vue de la succession rigoureuse qu'à celui de l'intensité des phénomènes psychologiques. Le livre des actes suffirait à prouver qu'il n'y a pas deux conversions identiques, et les moins violentes ne sont pas nécessairement les moins profondes. Gardons-nous en particulier de croire que la repentance doit toujours précéder et au même degré la conversion elle-même. L'expérience d'un grand nombre de chrétiens atteste le contraire. N'est-ce pas dans les bras et tout près du cœur du Père que l'homme se pardonne le moins d'avoir offensé Dieu? Enfin, n'oublions pas que si tout le salut est acquis en principe dans la conversion, parce que la volonté de l'homme est dès lors livrée et le grand obstacle, l'orgueil et la propre justice enlevés, ce n'est pourtant là, objectivement parlant, que la porte d'entrée dans la vie nouvelle. Une série d'opérations divines vont donc se succéder qui, de gloire en gloire, transformeront l'homme jusqu'à le rendre conforme à l'image de Christ. Et la première de ces opérations, c'est la nouvelle naissance, ou la régénération, qu'il faut bien distinguer à l'analyse de la conversion elle-même, quoique, en fait et dans la règle, elle la suive assez immédiatement pour pouvoir être confondue avec elle. L'homme se convertit, Dieu le régénère. Si la conversion est la suprême prière de l'homme, au point culminant de la repentance, la régénération en est l'exaucement, le feu du ciel tombant sur l'autel en réponse au cri d'Élie. Dans la conversion, il y a changement de position de l'homme. La volonté fait volte-face, instantanément peut-être, et cet acte de retournement, dont nous parlions au début, dans la régénération, il y a en principe changement de nature. Et dans la conversion prévaut la volonté de l'homme, soutenue, il est vrai, secrètement par la grâce de Dieu, de sorte que s'il n'y avait pas autre chose, ce serait beaucoup l'homme qui se sauverait lui-même. On ne pourrait pas dire qu'il est né de Dieu, engendré de Dieu, que la semence de Dieu demeure en lui. Le terme de « nouvelle création » serait bien impropre et réduit à ses seules forces avec d'intermittents secours d'en haut. L'homme ne dépasserait jamais l'état misérable décrit dans l'Épître aux Romains par le 7e chapitre. S'il le dépasse pour pénétrer dans le 8e, c'est que par la régénération, il reçoit cette puissance objective que Paul appelle « la loi de l'esprit de vie » qui est en Jésus-Christ. Bref, la conversion est à la régénération ce que le consentement de Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », fut à l'acte de toute puissance divine qui forma dans son sein virginal le futur enfant de Bethléem. Et la comparaison est d'autant plus en place que par la régénération, c'est bien un être nouveau que le Saint-Esprit engendre dans le cœur de l'homme, un être créé en sainteté et en justice véritable, ce qui explique ce cri de saint Paul « Mes petits-enfants pour lesquels je souffre des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dit-il aussi aux Colossiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit-il de lui-même. » Nous touchons ici au point qui fait séparation, je ne dirais pas entre deux conceptions du christianisme, mais entre deux religions opposées. Pour l'une, qui est le latitudinarisme, à tous les degrés. À vrai dire, le chrétien n'est que l'homme naturel graduellement modifié. Pour l'autre, qui est celle du pur évangile, le chrétien est une nouvelle création, c'est-à-dire un miracle. Pour l'une, par conséquent, et du plus ou moins, le salut monte de la terre, il est le fruit de l'évolution et d'une énergique réaction de l'homme. C'est donc l'homme qui finalement se sauve ou est censé se sauver par des réformes et des perfectionnements pour lesquels il utilise le secours de la religion. Mais comme l'homme ne peut pas plus se tirer lui-même de son état naturel qu'un noyé de l'eau en se soulevant par les cheveux, ce salut n'est qu'une apparence. Le péché est refoulé, mais non frappé à mort. La chair est amendée, non crucifiée. Il y a moralisation, souvent substitution d'un péché moins visible à un autre plus grossier, mais il n'y a pas transformation de l'homme en enfant de Dieu, héritier de Christ, temple et organe de l'esprit vivifiant. Semblable à ces corps de la vision d'Ézéchiel à qui ne manquait rien que l'esprit, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire tout, spirituellement, cadavre il est, beau cadavre il reste et restera, enveloppé d'un immaculé linceul. C'est pour cela qu'il faut, même à d'irréprochable Nicodème, religieux et moraux et orthodoxes, rappeler sans cesse avec une invincible fermeté, non moins qu'avec amour et prudence, dans les prédications et les services funèbres, dans les cours de catéchumène et les entretiens particuliers, qu'entre ce qui est né de la chair, chair vertueuse ou chair vicieuse, et ce qui est né de l'esprit, il n'y a pas différence de degré, mais différence d'essence, un abîme, par conséquent, que seul un miracle, à la suite d'une conversion radicale, peut faire franchir. On soulève ainsi des tempêtes dans les cœurs des propres justes, car autant ils sont prêts à tout entendre, quand il n'est question que de progrès et de réformes superficielles, autant ils s'emportent quand, par la prédication de la nouvelle naissance, on les assimile à des péagers. Mais tout en maudissant, dans le fond, souvent ils respectent et demain, peut-être, transformés par la grâce, ils nous béniront et deviendront nos meilleurs auxiliaires. À eux, nous aurons non plus les éternels bien disposés, impuissants à sauver les âmes, mais des laïcs qui sauront prier et évangéliser. En mettant l'accent sur la nécessité de la régénération, je ne méconnais nullement l'importance de la préparation antérieure par l'éducation, l'hérédité et l'action de l'Église. Dans ce domaine-là, je crois même jusqu'à un certain point à l'évolution. Je ne suis pas de ceux qui, parce qu'il faudra greffer l'arbre, font fi des soins donnés aux sauvageons. Je n'opte ni pour la culture du sauvageon contre la greffe, ni pour la greffe contre la culture du sauvageon. À l'instar de cette petite fille qui, lorsque je demandais un jour dans une école du dimanche ce que l'on préférait pour fêter Noël, un arbre ou une séance de projection, me répondit imperturbablement « Monsieur, nous préférons les deux. Moi aussi, je préfère les deux. Je crois puissamment au bienfait d'une éducation vraiment chrétienne et à l'influence profonde d'écoles vraiment chrétiennes. Je crois à la famille et à la foi de la famille que Paul mentionne pour lui et pour Timothée dans le même chapitre qui donne la formule de la foi personnelle. Je crois à l'Église, je crois à l'hérédité, je crois au milieu ambiant, mais je n'en crois pas moins que tout cela n'est rien. » Spirituellement et éternellement parlant, si la nouvelle naissance n'intervient pas pour former en nous la foi individuelle, la foi vivante et par le Saint-Esprit, Christ en nous. L'Évangile repose donc sur trois bases indissolublement unies. L'incarnation, la propitiation, la promesse du Père ou Christ en nous par le Saint-Esprit. Noël, Pâques, Pentecôte. Bethléem, Golgotha et la chambre haute. La crèche, la croix et les langues de feu. Christ avec nous, Emmanuel. Christ pour nous, l'agneau de Dieu. Enfin, Christ en nous, le nouveau consolateur qui demeure. Et telle est la nécessité indispensable de ce troisième don, qui est le but des deux autres, que Christ a pu dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, l'Esprit ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Oui, le cœur de l'homme est l'objectif des voies de Dieu. Le grand Dieu des cieux a soif de notre cœur. C'est là le lieu de repos qu'il ambitionne, si j'ose employer ce terme hardi. C'est le temple qu'il préfère à tous les temples, et dont il veut faire le temple de sa gloire par ce mouvement d'amour ineffable qui faisait dire à une dame catholique à qui l'on parlait du don de Dieu dans l'incarnation « Ô monsieur, qu'est-ce encore en comparaison de l'amour qu'il a porté à consentir à vivre en moi ?» Qui pourra jamais en langue d'homme dire les transports d'allégresse ou la béatitude plus calme d'une âme qui, après avoir cru en Christ sans rien sentir, peut-être, tout à coup ou progressivement, éprouve enfin les tressaillements du Saint-Esprit en elle. « Ô joie, joie, pleure de joie !» disait Pascal. « Toutes choses sont faites nouvelles. Les jours de deuil sont passés. Du cœur, des airs arides, jaillissent enfin des sources intarissables d'eau vive. » C'est le Magnificat de Marie, c'est le Béni soit Dieu de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, le Béni soit Dieu de Pierre dans sa première lettre, le Que ne puis-je, ô mon Dieu, de Monod. Oui, c'est en cantique brûlant d'action de grâce que l'on voudrait pouvoir dire au monde combien l'on est heureux. Sous la pression de l'amour et de la joie, le cœur éclate, la bouche s'ouvre, le visage rayonne. Un courage inconnu transforme le plus timide en témoin de Christ. L'amour des âmes, le zèle de la maison de Dieu vous dévore. Le mot d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas, se réalise à nouveau, on voudrait convertir le monde entier. C'est qu'enfin, de la tête descendue dans le cœur, le christianisme est devenu vie. C'est que Christ, jusque-là un sauveur à distance, commence à être un sauveur de près, un sauveur personnel, ami intime, conseiller, confident et guide, et qu'avec saint Paul, on peut s'écrier « Qui jamais me séparera de lui ?» Comment analyser ce mystère que Paul appelle le grand mystère ?« Ce mystère est grand, dit-il en Éphésiens, celui de l'union de Christ et de l'âme, union telle que ce n'est pas elle que l'apôtre compare au mariage, mais c'est le mariage qu'il compare à cette union. » Ô de grâce, finissons-en avec des interprétations qui énervent l'Évangile en montrant des figures, des métaphores, des exagérations orientales là où l'Esprit de Dieu a mis l'expression sobre et vraie de la plus glorieuse réalité. Quand Paul dit aux Corinthiens « Celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui » ou qu'aux Éphésiens il va jusqu'à écrire « Nous sommes ses os et sa chair » quand Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale, résume sa pensée en ces mots sublimes, « Toi en moi, et moi en eux, afin qu'ils soient consommés en un. » Croira-t-on encore qu'ils se livrent à des effusions mystiques, dont il faut nécessairement beaucoup rabattre ? Non, non, il révèle par là cette gloire de la nouvelle alliance, dont Jésus a dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il révèle le grand mystère de la présence réelle en nous par le Saint-Esprit. Présence tellement réelle qu'il n'est pas possible d'en imaginer une autre. Oui, Christ par le Saint-Esprit est en nous plus réellement, plus substantiellement qu'il le fut à Béthanie chez ses amis. Et la scène qui entretient et renouvelle périodiquement cette présence, en nous ramenant, fût-ce des hauteurs de la vie spirituelle au pied de la croix qui en est la source, la scène en est le signe, la scène en est le sceau, mais la scène à elle seule n'y ajoute rien. Et cette présence réelle est, en plus, permanente dans son principe. Oh, n'allez pas affaiblir le sentiment ineffable de ce privilège et en même temps vous priver du bienfait de celui de la responsabilité immense qu'il implique, en priant toujours comme si vous aviez à recevoir sans cesse à nouveau le Saint-Esprit, que vous demandiez à être toujours plus rempli de lui, que vous sollicitiez sa venue pour ceux qui ne l'ont pas encore, cela est bien. Mais si vous avez eu votre Pentecôte, rendez grâce sans vous exprimer dans vos prières comme ceux qui ont encore à le recevoir. En même temps que cette présence de l'Esprit est permanente dans son principe, elle est graduelle et progressive dans ses effets. Le soleil s'est levé, de ses rayons il a inondé le monde intime de l'âme convertie, mais il n'est pas encore au zénith. Ce qui est doit être toujours plus. Le chrétien a à devenir en fait ce qu'il est déjà en principe. Saint en Christ, il est appelé à devenir saint, enfant de lumière, à marcher dans la lumière, revêtu de Christ, à revêtir ses dispositions, mort, à faire mourir. Le don du Saint-Esprit est un dépôt qu'il faut garder et faire valoir. C'est la mine qu'il faut exploiter. C'est l'arbre, c'est le sarment plutôt, qui dans son union croissante avec le cep, portera du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, et du fruit permanent. Que ce développement soit représenté par la croissance d'un enfant, ou la construction d'un édifice, ou le développement d'une plante, toujours le progrès est attendu. Et ce progrès dépend maintenant de l'homme, puisque Dieu a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Car rien n'est magique dans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur ne procède pas par des coups de théâtre. Il y a bien certes des actes et des moments décisifs, mais dont il faut retenir et entretenir les faits et faire sortir les conséquences. Respectueux de la liberté de l'homme, de sa personnalité, de son individualité, le Saint-Esprit sollicite le concours de l'homme avec une connaissance parfaite de ce que ce concours peut être à chaque heure au point de vue de sa nature et de son intensité. Ce concours est essentiellement réceptif. C'est le sarment qui aspire la sève et se gorge de sève, mais élaboré par le cep. L'homme n'a qu'à se mettre et à se laisser mettre dans les conditions voulues pour que l'Esprit de Dieu le sanctifie en lui communiquant toujours plus la nature sainte de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui se sanctifie, ce mot ne figure jamais pour lui dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui le sanctifie, mais spirituellement et très librement. L'homme peut donc faciliter ou entraver l'œuvre divine. L'entraver en se dérobant pour faire sa volonté propre ou en mettant de lui-même là où sa force propre gâte l'œuvre de Dieu. Sur ce chemin de la désobéissance et des imperceptibles péchés contre le Saint-Esprit, on contriste le Saint-Esprit. Le niveau de la vie divine baisse, Christ devient faible dans l'âme appauvrie, le moi reparaît, la chair crucifiée, mais non extirpée sous forme grossière ou subtile, prévaut de nouveau sur l'esprit. L'homme nouveau demeure débile, il végète et dépérit. C'est un nain, un impotent, alors qu'il devait être un homme. Et s'il n'y a pas humiliation et retour à Christ, le dépérissement peut aller jusqu'à l'extinction de la vie divine, à cet état dont Pierre disait « Il eût mieux valu ne pas connaître le chemin de la justice ». Si au contraire, tout en mettant encore souvent à l'épreuve la patience de Dieu, l'enfant de Dieu écoute la voix de l'Esprit et se laisse conduire par l'Esprit, purifié de toute souillure par l'Esprit, assouplir, humilié et dépouillé de lui-même par l'Esprit, si les pieds sur le roc des promesses, l'oreille attentive à la voix de Dieu et le regard sur le crucifié avec les mains libres tantôt pour manier l'épée de l'Esprit ou le bouclier de la foi, tantôt pour accomplir les œuvres préparées sur son chemin par son Père, si en un mot l'enfant de Dieu marche selon l'Esprit, comme il vit par l'Esprit, alors l'homme nouveau créé en lui prendra de la croissance et de la force. Alors, de victoire en victoire, il arrivera à tout surmonter pour demeurer ferme. Toujours plus rempli de l'Esprit, il pourra porter le titre de spirituel que Paul ne pouvait donner encore aux Corinthiens, et même il arrivera à faire partie de cette élite, ouverte du reste à tous, que Paul appelle les parfaits, ce qui ne suppose pas la perfection d'ores et déjà réalisée, mais la présence de tous les éléments qui, dans le principe, la constituent. Alors s'accomplit toujours plus le vœu de saint Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Alors la vie chrétienne ne connaît plus ces compartiments distincts créés par la séparation entre sacré et profane. Alors, du cœur transformé, le principe de vie circule partout et met son sceau partout. Soit que l'on mange ou que l'on boive, on fait tout à la gloire de Dieu. Il n'y a plus de choses indifférentes. Les clochettes des chevaux sont sainteté à l'Éternel. Chaque jour est un dimanche, chaque lieu un temple et chaque acte un acte de culte. En même temps que cette œuvre de sanctification, le Saint-Esprit en accomplit une d'illumination. Comme esprit de vérité, il conduit dans la vérité. Et de vérité en vérité, il ouvre toujours plus les yeux de l'entendement pour montrer quelles sont les richesses de la gloire et de la puissance dont nous disposons en Christ. L'onction donnée à l'homme éclaire toujours plus pour lui la parole de Dieu. Ce n'est pas que toute espèce de science lui soit accordée. Le Saint-Esprit n'enseigne pas, par exemple, comment on va le ciel, mais comment l'on va au ciel. Il faut même que l'enfant de Dieu, dénué de science, se garde de sortir de son domaine spécial. Sa force est dans son humilité. En sortir, c'est se perdre, parce qu'il n'est plus, dès lors, de ces petits dont Jésus a dit « Je te rends grâce, ô Dieu, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. » Mais quelle science des choses de Dieu le Saint-Esprit n'a-t-il pas pu donner à de tels petits enfants? Depuis Aquilas et Priscille, les ouvriers tanneurs qui instruisirent le grand Apollos, et depuis l'homme inconnu qui transforma le grand Tolère jusqu'au savetier morave qui convertit la baronne de Crudener et au cordonnier de Lyon qui acheva de gagner Roseux Saint-Hilaire, que de paysans et d'ouvriers qui, dans le domaine de l'âme, en ont su plus que les docteurs dénués du Saint-Esprit. C'est là la science indispensable, car sans le Saint-Esprit, la théologie n'est pas seulement une pierre froide, elle est aussi un poison. Dans le domaine pratique, l'enfant de Dieu acquiert encore à l'école du Saint-Esprit une expérience qui l'aide à discerner toujours mieux quelle est la volonté de Dieu à son égard. Au début de la vie chrétienne, en effet, on s'imagine volontiers que l'idéal serait d'avoir une inspiration directe pour chaque pas à faire, comme si le Saint-Esprit allait tenir l'homme en minorité perpétuelle, le mener à la lisière et l'aveugler à force de l'éblouir. Pour être gardé ou guéri de cette erreur, plus dangereuse qu'on ne le croit, parce qu'elle peut aller jusqu'à paralyser l'homme, sinon à le frapper de maladie mentale, il n'y a qu'à lire d'un bout à l'autre le livre des Actes, en y notant à côté de tous les cas où le Saint-Esprit s'adresse directement à l'homme, ceux non moins nombreux dans lesquels il est dit que les apôtres trouvèrent bon de faire ceci ou cela. D'où l'on conclura qu'évitant dans ce domaine aussi tout ce qui est magique, le Saint-Esprit, à part les circonstances exceptionnelles, nous remet au jeu naturel de nos facultés sanctifiées, afin que, dans les limites des directions générales de la Bible et des indications de la conscience, notre intelligence spirituelle s'exerce à trouver ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi s'acquièrent ces sens exercés dont parle l'Épître aux Hébreux et cette sagesse spirituelle que Paul désirait tellement pour les chrétiens de Philippe. Là aussi, il faut faire un apprentissage qui ne va pas sans des erreurs de jugement que Dieu redresse et répare, et sur lesquelles, tout en recevant instruction, il ne faut pas s'attarder morbidement. Ainsi, et dans toutes les directions, se produit le perfectionnement de l'homme. Après les coups de ciseaux du divin sculpteur de l'âme, les retouches discrètes des instruments plus délicats. Après les grandes victoires, les progrès plus lents dans le domaine du caractère, qui n'est nullement condamné, comme le croit trop de chrétiens, à demeurer en dehors de l'action de l'esprit. Sous ce rapport aussi, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas par nature, on l'acquiert et on le devient par grâce. Christ en nous, n'appartenant à aucune nation particulière, ni à un tempérament spécial, l'hérédité de race et de famille peut être vaincue, et le caractère transformé dans tout ce qui n'est pas providentiel. Oh, quelle vie que cette vie de l'esprit, libre, sainte, joyeuse, austère aussi, avec ses luttes héroïques et sa virile discipline, avec ses épreuves et ses échardes, ses creusets et ses croix, que le Saint-Esprit, à titre de consolateur, transforme sans les supprimer. Quel Alléluia dans les larmes s'y fait entendre souvent, comme pour le psalmiste dans ses chants que la pieuse reine Louise a si heureusement défini de ce mot. Et dire que, quel que soit le degré où puisse arriver cette œuvre ici-bas, et les apôtres n'ont pas perdu une minute à essayer d'en fixer les limites, ce ne sont là pourtant que les prémices de l'héritage éternel, l'espérance de la gloire, plutôt que la gloire elle-même, une anticipation du ciel, le ciel sur la terre, avant que ce soit le ciel dans le ciel. Que sera donc la totalité? Que sera la plénitude? Que sera l'épanouissement final et infini de tout notre être en Dieu, alors que nous connaîtrons comme nous avons été connus, et que par Christ tout en tous, Dieu sera, lui, enfin, tout en tous? Que sera en particulier ce corps glorieux, corps spirituel, organe parfait d'une âme parvenue à la perfection? Quelle merveille nous réserve-t-il pour nous permettre d'être partout à la fois, peut-être tout en occupant un point dans l'espace? Ici-bas, il appart à l'œuvre de l'esprit, il emporte l'empreinte, tout pour un observateur expérimenté trahit la présence de l'hôte divin. Cependant, le corps reste ici-bas, un corps d'humiliation. L'homme extérieur se détruit. Sans être jamais fatigué du service, le chrétien se fatigue dans le service. Tôt ou tard, lui aussi devra subir le jugement en tant qu'homme dont parle l'apôtre Pierre. Oh, combien les innombrables mots dont le corps est le siège, combien les larmes que la mort, quoique vaincue en Christ, nous coûte encore, jointes à toutes les infirmités et à toutes les imperfections qui subsistent comme vestiges de la chute, combien le spectacle du monde tout entier doit porter l'enfant de Dieu à dire avec l'esprit et l'épouse « Seigneur Jésus, viens !» Oui, viens bientôt, Esprit, Esprit, viens couronner bientôt ton œuvre, et qu'enfin en nous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient pleinement glorifiés. Amen.